l'Amérique des Aztèques et des Incas. En moins de 2 ans, Hernán Cortés, entre 1519 et 1521 pour l'Empire aztèque, et Francisco Pizarro, entre 1532 et 1533 pour l'Empire inca, anéantissent les deux grandes formations politiques qui dominent l'Amérique centrale et la cordillère des Andes. Apparus vers 1200, les tribus aztèques fondent en 1325 Tenochtitlan, capitale d'un empire qui couvre le Mexique central et la péninsule du Yucatan. De son côté, la tribu des Indiens Quechua installe à Cusco au XIIIe siècle le centre de l'Empire Inca. Il s'étend tout en longueur, de la Bolivie au Chili, le long de la cordillère des Andes. Conquérants impitoyables, Aztèques et Incas s'imposent à tous les peuples qu'ils peuvent dominer militairement, suscitant haines et rancœurs. Elles ressurgissent au moment de l'arrivée des conquérants espagnols, facilitant l'effondrement spectaculairement rapide des deux grandes civilisations d'Amérique centrale et andine. L'Empire aztèque. L'Empire aztèque, fondé sur la puissance militaire, ne se montre réellement impérial que pour les finances et la justice. Dans tous les autres domaines, les peuples soumis jouissent d'une assez large autonomie. Lors de son apogée, au début du XVIe siècle, il s'étend de l'Atlantique au Pacifique, d'est en ouest, et du Rio Panuco jusqu'au Guatemala du nord au sud. Cet immense territoire sert de creuset à la civilisation aztèque qui fait de larges emprunts aux cultures qu'elle domine politiquement par un phénomène d'acculturation extrêmement rapide. La religion aztèque reprend les grandes lignes de celle des Toltèques, ce qui se traduit également par une architecture religieuse semblable, composée de pyramides, palais à colonnes monumentales, tout droit héritées de Toula. Les principaux dieux sont Quetzalcoatl, le serpent à plumes, Tlaloc, dieu de la pluie, Huitzilipochtli, dieu de la guerre, Coatlicule, déesse de la terre, Xochipilli, divinité de la jeunesse, de l'amour et des fleurs. Avant d'être détruite en partie par les conquérants espagnols qui y voyaient des représentations impies et scandaleuses, les formes artistiques aztèques ont atteint un haut degré de perfection. Orfèvrerie, longs manteaux de mosaïques de plumes multicolores, manuscrits enluminés, codex, comme le codex Borbonicus, qui représente le calendrier des rites annuels. L'arrivée de Cortés et des conquistadors a mis fin en quelques années, à partir de 1519, à une civilisation au sommet de son épanouissement culturel et de son rayonnement politique. Hernán Cortés, parti de Cuba avec 100 matelots, 500 fantassins, 16 cavaliers et 10 canons, conquiert l'Empire aztèque.
Le saviez-vous? La noche triste. Arrivé en février 1519, Hernán Cortés et les Espagnols reçoivent d'abord un accueil respectueux. Certes, chevaux, armures, armes à feu suscitent étonnement et parfois crainte. Mais les Espagnols impressionnent par leur physique. Barbus, ils évoquent le mythe du retour du dieu serpent à plumes, Quetzalcoatl, qui doit revenir auprès des Aztèques pour régner sur eux et inaugurer un âge d'or. Mais les relations se gâtent vite. En juin 1520, un lieutenant de Cortés, Pedro de Alvaro, est informé d'un complot dans la capitale, Tenochtitlan, contre les Espagnols. Il y prend d'assaut un temple et en massacre les prêtres. C'est le signal d'une révolte générale des habitants. La situation dans la nuit du 30 juin 1520 est d'autant plus dramatique que Tenochtitlan est élevé sur un ensemble d'îles reliées par des ponts de bois sur le lac de Mexico. Les Indiens ont coupé les ponts. Cortés ne parvient à sauver que 500 hommes sur les 2000 qui l'accompagnaient. Parvenu en sécurité sur les rives du lac, contemplant la ville en flammes et entendant les cris des Espagnols offerts en sacrifice à Huitzilipochtli, le dieu de la guerre qui a donné la victoire aux guerriers aigles et serpents, Hernán Cortés aurait pleuré et baptisé cette nuit funeste du nom de Noche Triste, la nuit de la tristesse.
L'Empire Inca. L'Empire Inca remonte à l'expansion de la tribu Quechua installée à Cusco au début du XIIIe siècle. Le terme d'Inca, qui désigne à l'origine le souverain, s'est étendu au sens générique à l'ensemble de la tribu dominante. Le territoire de l'Empire s'organise au milieu du XVe siècle, sous le règne de Pachacutec Ier, qui étend ses possessions de Quito au nord, dans l'actuel Équateur, jusqu'au lac Titicaca au sud. En l'absence de lois successorales, le système politique inca est affaibli et l'empire est partagé entre deux frères en 1527. Huascar à Cusco et Atahualpa à Quito. Il s'ensuit une guerre civile qui met le peuple inca à la merci du conquérant espagnol Francisco Pizarro. L'administration est composée d'aristocrates quechua et des membres des familles souveraines soumises. Les ordres parviennent rapidement d'un bout à l'autre de l'Empire grâce à un système très développé de routes et de messagers qui se relaient à la course à pied, les Incas ne connaissant pas le cheval. Les arts Incas sont caractérisés par une architecture cyclopéenne, formée de grands blocs de pierre, de forme polygonale ou cubique. Les blocs sont emboîtés les uns dans les autres sans recours aux mortiers. Les grands temples, Machu Picchu, Sacsayhuaman, sont voués au culte du soleil, mais à la différence des Aztèques, les Incas ne semblent pas avoir pratiqué de sacrifice humain. Ils ne possèdent pas d'écriture, mais une comptabilité complexe, à base du quipu, corde à nœuds et de lacets de couleurs différentes. Ils connaissent et maîtrisent parfaitement le travail des métaux. L'attitude bienveillante de l'Inca Atahualpa, seul souverain après l'élimination de son frère en 1532, favorise l'implantation de Pizarro et des Espagnols, qui le capturent et l'exécutent en dépit de sa conversion au christianisme en 1533. Après la conquête, l'Amérique espagnole est divisée en deux vice-royautés, celle de la Nouvelle-Espagne et celle de la Nouvelle-Castille, ayant pour capitales respectives Mexico et Lima. Cette dernière a été fondée par Pizarro, qui y est enterré dans la cathédrale. Un Conseil des Indes établit depuis Madrid l'ensemble de la législation, cependant qu'une Chambre de commerce, à Séville, envoie deux fois l'an une flotte chargée de produits manufacturés, qui revient avec une cargaison d'or depuis le port de Mexico, de Veracruz ou celui de Portobello en Amérique centrale.
N'oubliez pas, Atahualpa, le dernier Inca. La grande faiblesse de l'Empire Inca tient à son extrême centralisation. L'Inca, fils du soleil, règne en souverain absolu sur son immense empire, avec une rigueur extrême. Tout semblant de révolte est puni de mort. Ce système s'applique lors de la première rencontre de Francisco Pizarro et de l'Inca Atahualpa. Afin d'honorer le souverain, Pizarro ordonne à ses 67 cavaliers de manœuvrer, puis de présenter leur respect à l'Inca. Atahualpa demeure dans l'immobilité absolue attendue d'un dieu vivant. Mais il n'en va pas de même de son entourage, qui manifeste sa crainte devant les chevaux, animaux inconnus des Incas. Atahualpa les fera étrangler pour ce manquement en sa présence. Il finit de la même manière, étranglé dans sa prison, le 29 août 1533, après avoir payé, pourtant, l'énorme rançon exigée par Pizarro, une pièce entière remplie d'objets d'or.
Quelques grands oubliés. Il est des peuples qui ont longtemps été les grands oubliés de l'histoire. Fréquemment, car ils n'utilisent pas l'écriture, souvent encore car ils n'ont pas bâti d'impressionnants empires ni laissé le nom de leurs grands hommes. Sans les passer tous en revue, rendons un discret et modeste hommage à trois groupes, les aborigènes d'Australie, les Papous de Nouvelle-Guinée et à l'autre extrémité du monde, les Inuits. Les aborigènes d'Australie. L'origine exacte des aborigènes d'Australie demeure à ce jour confuse. Ils sont peut-être originaires de Nouvelle-Guinée ou des îles de la Sonde et se seraient installés il y a plus de 100 000 ans, une date très contestée. Leur nom peut être traduit par autochtone, c'est-à-dire sorti du sol, en ce sens qu'ils descendent d'un ancêtre commun. Les tribus aborigènes vivaient sur le mode des chasseurs-cueilleurs, avec une répartition sexuée classique des tâches, les hommes à la chasse, les femmes assurant par la cueillette une régularité plus grande de la nourriture en raison des aléas de la chasse. Comme les Tasmaniens aborigènes installés sur la petite île de Tasmanie au sud de l'Australie, les aborigènes d'Australie ont failli disparaître. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, les colons britanniques sont des déportés relégués en Australie pour éviter le surpeuplement des prisons. Ils repoussent les aborigènes sur des terres de plus en plus restreintes. Lorsque la colonie est organisée, politiquement, les aborigènes sont menacés d'une autre forme de disparition, cette fois-ci par assimilation.
Le saviez-vous ? Le serpent arc-en-ciel. Si la culture aborigène s'est maintenue, elle le doit à la force et à la puissance des mythes fondateurs. À l'origine du monde se situe le temps du rêve, appelé le Djoukurpa, peuplé des créateurs de l'univers dont le principal est le grand serpent arc-en-ciel, père de toutes les lignées d'aborigènes. Représenté dans les grottes, réservées aux initiés, le dessin du serpent arc-en-ciel est en lui-même à la fois l'échelle des temps et une cosmogonie. Tout ce qui a été créé l'a été à son époque, celle du temps du rêve. De même que le serpent arc-en-ciel est à l'origine des hommes, il est l'initiateur de la création de la nature, des formes minérales, animales, végétales.
Les Papous de Nouvelle-Guinée. Les Papous ont longtemps eu mauvaise réputation, accusés de pratiquer régulièrement l'anthropophagie. Leur nom vient du portugais et il signifie « crépu » en référence à leur chevelure. Installés en Nouvelle-Guinée depuis 50 000 ans environ, les Papous sont des agriculteurs. L'organisation sociale repose sur le lignage, une lignée remontant à un même ancêtre commun. La société Papou repose sur une stricte répartition des sexes. Aux hommes, la guerre et la chasse, aux femmes, l'élevage des cochons et les pratiques agricoles. Le symbole même de cette frontière sexuée est la coutume de la maison des hommes. Il s'agit dans chaque village papou d'un édifice construit en longueur et réservé aux hommes adultes, c'est-à-dire qui ont passé les rites d'initiation qui les autorisent à s'agréger au groupe des hommes, capables de prendre des décisions pour la communauté. La pratique occasionnelle de l'anthropophagie est liée à un rite d'appropriation magique de la force vitale de l'adversaire vaincu. Aux yeux des Européens, elle est d'autant plus spectaculaire qu'elle s'accompagne d'une pratique de conservation des crânes. Ceux des ennemis le sont dans la maison des hommes, mais dans chaque clan, ceux des aïeux sont pieusement conservés et servent d'oreiller pour les hommes. L'âme du défunt, son énergie sont censées, lors des rêves nocturnes, aider leurs descendants à régler leurs actes, à prendre les bonnes décisions. Pour les principales tribus des pays asmates et sipiques, cette pratique a perduré jusque dans la seconde moitié du XXe siècle. En pays sipique, les adolescents qui arrivent à l'âge d'être intégrés dans le groupe des hommes et d'avoir enfin accès à la maison des hommes doivent prouver leur courage en subissant une épreuve. Un saut à effectuer depuis le haut d'une tour végétale qui atteint 20 à 30 mètres. Les candidats doivent se jeter sans montrer d'hésitation, la tête en avant dans le vide, qui doit frôler le sol. Devenu homme après son premier saut, le papou renouvellera à chaque initiation le saut depuis des tours de plus en plus hautes, son crâne s'approchant de plus en plus près du sol. Les Inuits du Nord-Canada. Les Inuits, vous les connaissez tous. Mais si, cherchez un peu. Dans votre enfance, on les appelait les Esquimaux. Ce terme est désormais remplacé par celui d'Inuit, les gens en Inuktitut, la langue pratiquée par les Inuits. Depuis 4000 ans environ, ils sont installés dans le nord canadien sur le territoire appelé le Nunavut, notre terre en Inuktitut. Leur mode de vie itinérant les amène à parcourir de vastes espaces, entre campements d'été et campements d'hiver. Depuis le 1er avril 1989, le territoire du Nunavut a été officiellement créé par les autorités fédérales du Canada, accordant de ce fait aux Inuits une plus large autonomie. Les contacts avec les Européens n'ont commencé qu'au XVIIIe siècle, au moment où se développent dans le Grand Nord canadien les campagnes de chasse à la baleine, très répandues au cours du XIXe siècle. Les rencontres ont lieu dans les comptoirs à fourrure où les Inuits, grands pisteurs et habiles chasseurs, viennent vendre les fourrures des animaux contre des fusils, instruments de pêche, denrées alimentaires et alcool. Même s'il perdure, le mode de vie traditionnel des Inuits tend peu à peu à disparaître en raison d'un mouvement de sédentarisation accentué dans la seconde moitié du XXe siècle. Toutefois, la chasse reste une activité très pratiquée, à la fois pour se procurer de la viande et comme revenu supplémentaire. L'Inuktitut demeure très largement parlé, grâce notamment à son enseignement, mais aussi aux émissions de télévision diffusées partout au Nunavut.